Palestine ici, Palestine là-bas. Ce soir, au micro de Radio Calade.
Palestine ici, Palestine là-bas. Mabrouk Lazrec, comité Calado Action Solidarité, au micro de Radio Calade pour animer l'émission Palestine ici, Palestine là-bas.
Bernard Rivernet, des CCICP.
Campagne civile
internationale pour la protection du peuple palestinien. Nous remercions Radio Calade de recommencer, de renouveler nos interventions mensuelles au micro, à leur micro. Et voilà, donc nous sommes de retour pour ce mois de septembre. Ce mois de septembre qui était caractérisé il y a quelques années par le massacre de Sabra et Shatila, rentre directement dans le sujet là.
Ouais. Voilà, donc voilà, ça va être un peu le sujet central de notre émission, pour rappeler dans un premier temps l'histoire du peuple palestinien, mais en même temps pour dire aussi, voilà, pour pas oublier, le travail de mémoire, je pense, qui est très 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 important, pour rappeler à nos auditeurs ce qui s'est passé le 16 septembre 1982. Donc, en deux mots, c'est un massacre dans les camps de réfugiés palestiniens de Sabra et Shatila, à Beyrouth Ouest. Donc, ce massacre, il s'inscrit bien dans la stratégie israélienne visant à détruire la résistance palestinienne.
Alors, c'est les Israéliens qui sont intervenus? Comment ça s'est passé? Qui est-ce qui est intervenu en réalité?
Non, en 1981, c'est les milices déjà d'extrême droite libanaise.
Les phalanges
libanaises, chrétiennes, dirigées par Bachir Gemayel, sont armées et entraînées par l'armée israélienne. Donc, il n'y a pas que l'armée israélienne, il y a aussi ceux qui vont être en avant.
Parce que le seul boulot, c'est quand même pas les Israéliens qui l'ont fait.
Voilà, c'est les milices d'extrême droite libanaises, dites les phalanges libanaises. Donc, dirigées par un certain Bachir Gemayel. Donc, l'État sioniste, Israël, fait de même avec l'armée du Liban Sud, dirigée par un certain Saad Haddad. Ces forces libanaises d'extrême droite ne sont pas leur premier massacre contre les Palestiniens et la gauche libanaise qui les soutient aussi. Au mois de janvier 1976, elles massacrèrent aussi 1500 Palestiniens, Kurdes et Syriens dans le bidonville de Beyrouth. Donc c'est aussi une continuité dans la volonté de détruire la résistance palestinienne et puis la continuité du massacre palestinien, du massacre du peuple palestinien.
Oui, là on est dans une certaine phase avec le gouvernement et avec l'armée israélienne là, hein, puisque l'armée israélienne d'une certaine manière a participé au massacre, puisque c'est elle qui a éclairé pendant trois jours avec des fusées éclairantes le camp de Sabra et Shatila, si je ne me trompe pas.
Oui, alors on est dans un contexte d'invasion du Liban par Israël. À l'époque, on est en juin 1982. Cette invasion prend pour prétexte l'assassinat de l'ambassadeur israélien à Londres, Shlomo Argov, qui est assassiné le 3 juin 1982, malgré le fait que l'OLP nie être l'auteur de cet attentat. Mais Israël décide quand même de bombarder les camps palestiniens au Liban. Donc il y a une riposte par rapport à cet attentat, et que Israël lance l'opération qu'ils vont appeler Paix en Galilée. Je ne sais pas si c'est l'ironie.
Mais voilà. Même pas rire, mais bon.
Mais le Paix en Galilée, on est le 6 juin et ils envahissent le Liban. Malgré la condamnation des Nations Unies, l'État sioniste encercle Beyrouth. Et il lui impose un siège en bloquant tous les approvisionnements. Donc, encerclement et bombardement par la suite.
D'accord. Et là, on arrive donc au Sabra et Shatila, au mois de septembre. Les forces, les phalanges libanaises, chrétiennes, envahissent le camp et tuent femmes et enfants. Hommes, femmes et enfants, sans discrimination, pendant trois jours de massacre.
Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail, Dans ce contexte, Bachir Gemayel est assassiné le 14 septembre 1982. Ça va se jouer dans
quelques
jours par un attentat à la bombe. Immédiatement, l'armée israélienne investit Beyrouth, faisant 88 morts et 254 blessés. Deux jours plus tard, les camps palestiniens de Sabra et Shatila, le sujet de notre émission, sont bombardés, puisque les phalangistes protégés par l'armée d'Israël commencent le massacre. Donc voilà, pendant deux jours, protégés par l'armée israélienne, par l'armée sioniste, les phalangistes libanais exécutent des milliers de civils. Au total, ce seront entre 3000 et 5000 réfugiés civils, les combattants étant partis, qui sont assassinés. Pendant toute la durée du massacre, l'armée sioniste a éclairé les camps par des fusées éclairantes, comme tu disais, afin de faciliter l'action des assassins.
Des assassins, parce que c'était nuit et jour, il n'y a pas eu de relâche. Donc
suite à ça, c'est dénoncé. L'Assemblée générale des ONU, l'Assemblée générale des Nations unies qualifie en fait le massacre à grande échelle et même d'acte de génocide. Lors de sa 108e réunion le 16 décembre 82. Mais bon, c'est resté impuni puisque rien n'a été inscrit. Aujourd'hui, c'est commémoré depuis 1982. À chaque moment de cette année, c'est commémoré. C'est inscrit même dans la mémoire du peuple palestinien. Mais rien n'a été reproché à l'État.
Il n'y a eu pas de suite.
Ce qu'on oublie de dire aussi, c'est qu'il y avait un certain Ariel Sharon qui était à la commande au ministère de la Défense israélien.
Tout à fait, oui.
Et qui a été aussi le boucher de cette entreprise.
Qui a participé à sa manière aussi. On peut simplement relire Jean Genet qui est entré avec les Lachéides les premières heures après le massacre et qui a écrit un bouquin superbe et déchirant.
Tu peux rappeler le
je me rappelle plus du titre.
Ouais, je sais qu'à l'époque, lui, il avait
et déchirant, je l'ai retrouvé. Mais c'était vraiment, et c'est vraiment un beau bouquin qui parle de ce massacre très crûment, comme il le faisait Jean Genet, mais avec ses mois, lui, quoi, et ses yeux qui ont vu et ses mains qui ont écrit, quoi. Et c'était impressionnant, quoi. Voilà. Ce massacre, il y en a eu d'autres aussi de massacres, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, il n'y a pas de. Voilà, si ça, on n'en tient pas compte, ou qu'il n'y a pas de prise de position sérieuse, formelle, et puis il n'y a pas de suite d'un
suite.
Tribunal qui pourrait prendre les choses en main et considérer que ce charnier élaboré avec beaucoup de. Comment dire. Beaucoup de méchanceté, beaucoup de violence par les troupes à la fois, enfin par les phalanges et à la fois par Israël, parce qu'Israël est quand même le porteur du truc, quoi, le porteur de ce massacre. Rien n'est fait. Voilà. Mais on en a vu d'autres, plan Durcy et compagnie, où on comptait les morts par centaines, mais. Toutes les demandes ont été.
Comme on l'a dit à plusieurs fois dans cette émission, c'est qu'Israël jouit d'un statut d'impunité et que, quel que soit le massacre, quels que soient les actes de génocide, quel que soit rien ne lui est reproché. Après, rien d'étonnant en ce qui concerne ces actes de barbarie, ces massacres. Mais voilà, ce qui est important, c'est de soulever quand même la caractéristique de ces événements pour ne pas oublier, puis en même temps, le peuple palestinien garde la mémoire de tous ces événements qu'il subit depuis plus d'un siècle, puisque quand on trace la chronologie de tout ce qu'il a pu subir depuis la déclaration Balfour. Si on peut partir que de cette date, c'est des événements sur événements. Mais encore une fois, un grand hommage à ce peuple qui résiste et puis qui nous renvoie un message de résistance hors pair.
et qui paye un tribut très très lourd à l'occupation israélienne, parce que c'est une occupation, hein, on va pas.
Il n'y a pas d'autre.
Voilà. Une occupation qui se durcit de jour en jour. Et si on se réfère aux dernières déclarations, notamment de Trump, hein, qui ne veut plus financer.
Lui et nos rois.
C'est encore une porte ouverte, c'est encore presque un blanc-seing qui signe à l'autorité israélienne, hein, aux autorités israéliennes, pour faire ce qu'elles ont envie de faire.
Alors, Trump, lui, annonce directement, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il annonce la couleur, sans passer par des déclarations où derrière il y a. On peut s'imaginer que derrière il y a ceci, cela. Lui, il est droit dans ses bottes, il est clair dans son discours. Quand il dit, par exemple, l'UNRWA, qui est un institut de l'Agence des Nations Unies, qui vient en aide aux réfugiés palestiniens à Gaza, quand il dit on va supprimer l'aide qui leur est attribuée tous les ans à la hauteur de 200 millions de dollars, c'est dans une stratégie d'intimidation et de comment dirais-je. Il fait pas ça pour rien, parce qu'aujourd'hui il y a un mouvement de la société civile qui s'est mis en place et qui a actionné, comme dirais-je, un autre levier pour un autre levier de la résistance non violente, puisque depuis le 30 mars dans la bande de Gaza, tous les vendredis on a ce qu'on appelle la marche du retour, qui s'inscrit dans la revendication du nom qu'elle porte, puisque le plus grand nombre de réfugiés palestiniens vit à Gaza. Et aujourd'hui, leur souhait, qui aussi s'inscrit dans le respect du droit international, dans la résolution 194, puisque tout réfugié doit revenir
de là où on l'a expulsé,
ou là où il a été expulsé.
Alors avant de continuer sur la société civile palestinienne, je voulais juste revenir sur ce dont on parlait juste avant, sur cet argent, ces 200 millions, c'est 200 millions de dollars. C'est pas de l'argent qui va pour alimenter des fusils ou d'autres choses, ou d'autres armements. C'est quand même de l'argent qui est distribué à un organisme qui est en charge, un organisme agréé, qui est en charge de répartir cet argent pour les populations. Pour les populations. Pas ça, donc c'est pour de la nourriture, c'est pour des événements culturels, c'est pour des animations, c'est pour des bâtiments, voilà, que sais-je. Mais en tout cas, c'est pas de l'argent qui est dispensé pour faire la guerre.
Alors, dans ces dons, les États-Unis ne sont pas le seul donateur.
Bien sûr, mais enfin, c'est le plus gros donateur quand même.
Voilà, c'est un des plus gros donateurs. Sauf que là, avec la situation quand même catastrophique dans la bande de Gaza, puisque le taux de chômage est impressionnant, comme tu dis, énorme, les conditions de vie sont très difficiles, beaucoup de choses qui font que, même avec cette aide qui venait de la part des États-Unis, c'était pas suffisant. Donc aujourd'hui, ça vient encore plus compliquer la donne. Et même ça a été reproché, puisque les États, les membres de l'Union européenne, entre autres les grandes puissances, bien sûr, comme l'Angleterre, la France et l'Allemagne, ont reproché aux États-Unis de cette suspension des subventions qui est accordée à la.
En parallèle de ça, cette subvention permet aussi, ou ces subventions, il n'y a pas que les États-Unis, comme tu disais, pas ces subventions, permettent aussi de faire fonctionner tout ce qui est la sécurité et le reste autour des sur les territoires. Hein, dire, les fonctionnaires, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui enregistrent, il y a des mairies, il y a des gens qui enregistrent, qui sont travaillés à l'état civil, etc. Tout ce qui est foncier, enfin bon, bref, il faut des gens pour faire fonctionner le système. Et ces gens-là ne sont pas ou ne sont plus payés pour ce qu'ils font, parce qu'il y a des subventions qui n'arrivent plus.
Ouais,
donc c'est une sorte de déstructuration de toute la société, hein, puisque je vois un peu comme ça, hein, puisque les gens ne sont pas payés pour faire leur travail, ils le font un certain temps, et puis après il y a une sorte de déliquescence qui est programmée, quoi.
Mais bon, Trump, il n'est pas, comme dirais-je, il ne fait pas dans la dentelle, puisque dernièrement il a aussi fermé l'ambassade de l'OLP, l'Organisation de la Libération de la Palestine, une ambassade qui était, depuis les accords d'Oslo, qui était aux États-Unis, là, il l'a fermé, donc l'ambassadeur a dû revenir en Palestine. Donc voilà, depuis toutes ces démarches, et puis là, comme dirais-je, il n'en était pas à sa première, puisqu'avec sa provocation de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, et il ne le fait pas à n'importe quel moment, puisque le 14 mai, il inaugure cette ambassade à Jérusalem, est dans la provocation.
Et que le 15 mai, c'était...
Et le 15 mai, c'est la Nakba.
La Nakba,
un souvenir encore tragique du peuple palestinien. Et voilà, ça c'est la démarche de Trump, et qui est dans la même logique, et je dirais même encore, dans la même logique que Netanyahou, mais en même temps, dans le même état d'esprit, et puis dans la même idéologie, puisqu'ils sont dans l'extrême droite, fascisante, et puis... radical.
Voilà. Donc ça veut dire que ce gouvernement d'extrême droite, comme tu dis, ce gouvernement d'extrême droite a les mains libres pratiquement pour faire ce qu'il veut, hein, notamment dans le cadre de la colonisation. Voilà.
La colonisation ne s'arrête pas.
Non.
Et ça, on est dans le, comment dirais-je, dans la, on paye les pots cassés des accords d'Oslo. Les accords d'Oslo a été justement un catalyseur pour continuer la colonisation en Palestine occupée et pour servir de faire valoir pour justement justifier toutes ces actes d'oppression, d'occupation et de colonisation. Oslo, à la base, est une escroquerie et un moment tragique du peuple palestinien. Alors qu'on pourrait croire que tout le contraire, ça a été cette fameuse poignée de main entre Arafat et Isaac Rabin, et que tout allait rentrer dans l'ordre. C'était tout le contraire qui s'est passé. Et aujourd'hui, 25 ans après, le peuple palestinien, on paye les poulets.
On peut simplement rappeler qu'en 67, l'intervention de Gaulle, hein, disant que les territoires occupés, si les territoires étaient occupés, il ne fallait pas s'étonner qu'on trouve des terroristes à la porte de chez soi, quoi. Tout à fait les mots qu'il a utilisés, mais en tout cas, il a bien compris ce qui allait se passer, et puis voilà, c'est arrivé avec les Fedaïn et tout le mouvement qu'on a vu dans les années 75-85, à peu près. Ouais, donc voilà, tous les.
Alors après, le mérite du peuple palestinien, c'est que, avec toutes ces, comment dirais-je, toutes ces initiatives du camp adverse, de vouloir nuire, de vouloir intimider, de vouloir... c'est qu'il y a toujours des initiatives qui se mettent et qui voient le jour, entre autres la marche du retour, entre autres cette destruction. Moi, je pense à cette destruction dans un village bédouin en Palestine occupée. Alors, le nom, c'est Khan al-Ahmar, c'est le Khan al... on dirait comme ça en français, là. Moi, je ne sais pas comment le prononcer en français, mais voilà. Et cette initiative du peuple palestinien, c'est de contrer la destruction de ce village et en parallèle, bâtir.
En reconstruire à nouveau.
En reconstruire à nouveau. Et puis résister pour justement ne pas sortir et ne pas être expulsé de sa terre.
Voilà. Donc là, jusqu'à maintenant, on était un peu dans le pathos, on était dans les idées un peu noires, et puis ce qu'avait subi le peuple palestinien. Mais quand même, le peuple palestinien, il résiste, hein, et on voit que, voilà, on va retrouver, moi je voulais en parler ce soir, on est d'accord, hein, Daed Tamimi, hein, qui est sortie de prison. On avait parlé d'elle il y a quelques mois, parce qu'elle avait giflé un soldat israélien. Elle a récupéré 8 mois de prison. Elle est sortie de prison au mois de juillet, je crois. Voilà. Et elle est devenue une sorte d'effigie, hein, du mouvement palestinien. Parce qu'en plus, même si elle a 16 ou peut-être 17 ans maintenant, je ne sais plus, elle est quand même révélatrice d'une certaine résistance, hein, à sa manière. Et une résistance, pas une résistance sauvage, une résistance qui est porteuse de projets et qui est porteuse de la voix du peuple palestinien, à sa manière, hein, bien sûr. Mais comme d'autres le sont, tu parlais des marches, on peut parler aussi des cerfs-volants à Gaza. Mmh. Hein, il y a des gens en dehors des partis politiques, même si on veut faire croire que c'est à Gaza, c'est systématiquement le Hamas qui intervient. Non, c'est pas le Hamas qui intervient, c'est des gens de la société civile qui prennent position et qui font des manifestations, que ce soit des marches ou des cerfs-volants, pour manifester leur existence. Voilà. Bah,
ce qu'on disait déjà dans l'initiative des marches, et on a vu les dégâts de l'armée israélienne, avec le nombre de morts, puisqu'aujourd'hui on n'est pas loin de 200 morts avec le nombre de blessés. On a tout de suite mis montré du doigt le mouvement Hamas en Palestine, puisque c'est lui qui dirige la bande de Gaza. Mais on est non loin de tout ça. Mais bien dans sûr. La stratégie de communication des adversaires, des ennemis, et dans la conception aussi, quand une initiative comme ça qui est porteuse, c'est de dire il y a quelqu'un derrière, alors que non. Le nombre d'actions, le nombre d'initiatives qui ont été prises ces dernières années, ces 10 ou ces 20 dernières années de la société civile, je pense qu'elles sont plus porteuses et en même temps, elles pèsent plus que toutes les décisions qui ont été prises par les deux grands partis, là, pour citer que le Fatah et Hamas.
Oui.
Mais aujourd'hui, ce qui est porteur et ce qui est en même temps, de la part de la société civile palestinienne, c'est ces outils qui se sont dotés, entre autres la marche du retour, le lancement de la campagne BDS, du boycott, toutes ces marches non violentes tous les vendredis pour protester contre le mur, tout ça c'est des actions qui aujourd'hui rayonnent et puis font caisse de résonance à travers tout le monde.
Tout à fait.
Et pour ne pas oublier aussi le mouvement des prisonniers dans les prisons israéliennes.
Moi, je propose que cette discussion se poursuive le mois prochain, sur la société civile.
L'importance du mouvement de la société civile palestinienne.
Voilà, on essaiera de détailler un peu plus en profondeur.
Et il y a énormément de choses qui se font à l'intérieur de la société civile, et surtout de la part de la jeunesse palestinienne.
Voilà. Avant qu'on passe aux informations, peut-être de la sur Villefranche.
Sur Villefranche et puis aussi sur Tarare, sur Lyon.
Voilà. Moi, je voulais quand même, parce que ça fait 10 ans que Mahmoud Darwish est mort, et dire juste quelques phrases, quelques mots qu'il a écrits.
Alors, Mahmoud Darwish, grand poète palestinien.
Voilà, exactement.
Avec des poèmes vachement engagés. Et puis,
très engagés.
Ouais.
Ici et maintenant. Ici, entre les débris des choses et le rien. Nous vivons dans les faubourgs de l'éternité. Maintenant, nous vivons hier et demain, et nous partons dans d'autres directions qui pourraient échanger un salut poétique. Ici et maintenant, l'histoire ne se soucie pas des arbres ni des morts. Nous sommes toujours là, partout, le fardeau de l'éternité. Voilà. Une petite pensée pour lui.
Ouais, bah c'était pas mal. Surtout les poètes palestiniens. Mais c'est vrai que l'actualité palestinienne est très 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 chargée. Nous, à l'occasion de cette émission, on essaye de dire on essaye de faire passer le message au maximum. Mais c'est vrai que ça mériterait une émission un peu plus grande, avec un détail et puis. Voilà, une exposition un peu de tous ces événements.
Oui, parce que...
Mais c'est vrai que l'actualité en Palestine est très très dense, c'est très très chargée.
Entre juin, moi j'ai regardé un peu, j'ai continué à m'intéresser un peu à la Palestine, même pendant les vacances, entre juin et puis fin août, il s'est passé, donc on m'a parlé tout à l'heure, la libération d'Aïd, mais il s'est passé énormément de choses qu'on ne peut pas reprendre systématiquement. Il faudrait presque, je n'irai pas une émission quotidienne, mais il y a énormément de choses qu'on pourrait analyser au jour le jour dans ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Voilà.
Et ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'en dehors de la Palestine, dans les pays occidentaux, dans le reste du monde, c'est que la prise de conscience aujourd'hui, et puis l'opinion publique qui est en faveur du peuple palestinien, grandit de jour en jour. Et on l'a vu ces derniers temps avec les organisations culturelles ou les événements culturels où on a vu d'artistes de grande renommée qui ont refusé de participer à ces organisations qui sont parrainées ou qui sont organisées par les Israéliens.
Donc ça marque une conscience, non pas seulement sur
l'opinion publique, mais aussi sur des artistes de grande renommée qui, aujourd'hui, prennent conscience du sujet, du problème, et puis de montrer aussi que leur voix n'est pas récupérée pour blanchir ou pour tout ce qui se passe là-bas.
Donc sur Villefranche.
Alors, on va passer à la partie voilà. événement. Il nous reste quelques minutes. Voilà. Sur Villefranche, pareil, il se passe des choses, pas qu'à Radio Calade, mais
avec Radio Calade aussi.
Ou avec Radio Calade pour nous faire. Il y a une exposition à la galerie municipale au passage de l'ancienne mairie. Alors cette exposition, l'intitulée, c'est la Nakba, puisqu'on va parler de la. Durant ces quelques jours, du vendredi 21 au mardi 25 septembre 2018, cette exposition s'intitule « La Nakba, expulsion et exode des Palestiniens en 1946-1948 ». Donc, on est ouvert du vendredi 21 au dimanche 23 de 10h à 18h, et le lundi 24 et mardi 25 sur rendez-vous. Donc, cette exposition est organisée par quatre structures, entre autres Organisation Femmes Égalité, c'est une association qui est sur Villefranche, Comité Caladois Action Solidarité, dont je suis un membre, la Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien, ici est présent Bernard Regarnet, et l'Union Juive Française pour la Paix qui participe à cette exposition. Donc l'inauguration aura lieu vendredi soir à 18h à la Galerie Municipale de Villefranche. Sur le même thème et qui s'inscrit aussi dans le cadre de cette exposition, après l'inauguration, on terminera à la Bourse du Travail la soirée avec une rencontre débat dont l'intitulé est « La Palestine contre l'oubli, quelle solidarité ?» et qui sera animée par Georges Gampel. Alors pour rappeler qui ne connaît pas Georges Gampel, qui est membre de l'UJFP, et l'UJFP, on connaît ses positions par rapport à la Palestine qui sont...
L'Union des Juifs voilà, Français pour la Paix.
Voilà, qui sont en solidarité avec le peuple palestinien. Donc ouais. Ça se passera le vendredi 21 septembre 2018 à 19h30 à la Bourse du Travail. Pour ceux qui ne connaissent pas la Bourse du Travail, c'est 21 place Roger Rousset, 69-400 Villefranche. Donc voilà, venez nombreux. Voilà. Et puis je pense que c'est l'occasion de poser des questions, de s'informer. Et puis en même temps, ça sera aussi l'objet de cette soirée, c'est aussi de dégager des pistes. De comment venir en aide au peuple palestinien. Quelle voilà. solidarité, c'est un peu...
Trouver des informations et voilà. peut-être vous engager un petit peu plus sur la cause palestinienne. Voilà.
Alors, pour finir, il y a aussi un événement, mais qui sera sur Tarare le vendredi 28 septembre à 20h, et c'est au cinéma Jacques Perrin. On va parler d'un film, Le Char et l'Olivier. Alors, Le Char et l'Olivier... Si on se souvient bien, c'était il y a un an, on avait fait venir M. Roland Runier. Roland Runier, c'est lui qui a l'initiative du film documentaire. C'est une autre histoire de la Palestine. C'est l'intitulé de son court-métrage ou son film, Le Char et l'Olivier. Donc voilà, il nous invite à venir participer à l'avant-première. Et donc voilà, c'est avec toutes les informations que je vous donnais, le film vaut vraiment le coup, puisqu'on a tout le long du film, on a des interventions de grandes personnalités, de connaisseurs de la question palestinienne, qui viendront nous éclairer sur ce sujet.
Ouais. Et pour finir, j'ai retrouvé le nom du livre de Jean Genet sur Sabra et Chatila, c'est 4 heures à Chatila, voilà.
D'accord.
Et n'hésitez pas à le lire, voire à le relire.
Ça mériterait aussi encore une autre émission consacrée à la culture palestinienne et avec tout ce qui s'est dit sur cette question.
Voilà, et il y avait un autre livre aussi qui était intéressant, c'était Les Portes du Soleil, mais on en reparlera un peu plus tard.
On en reparlera.
Radio Calade, merci de votre accueil. L'émission Palestine ici, Palestine là-bas se termine ce soir.
Ben merci pour les auditeurs et puis il y a une autre fois où on donnera un peu plus d'infos concernant cette question. Merci Radio Calade. Ciao.